L'histoire méconnue du village d'Iroulégui, racontée par Dami Vigier.
Bonjour chers amis, que diriez-vous de parler aujourd'hui de la loi de 1905 et de ses conséquences à Iroulégui ? Je vous brosse un petit tableau général d'abord. En 1801, signature du concordat entre le consul Bonaparte et le pape Pie VII. Ce concordat stipule que l'Église ne revendiquera pas les biens confisqués à la Révolution, mais en échange, l'État assurera l'entretien des prêtres qui auront bien été définis par l'accord. Et ce concordat fonctionne pas mal jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 1879, c'est l'arrivée au pouvoir des Républicains. Leur programme garantit un nombre impressionnant de libertés. Vous avez la liberté de réunion publique, vous avez la liberté de la presse, vous avez la liberté d'accès au savoir. Vous avez la liberté pour les associations professionnelles, vous avez la liberté municipale. Mais pas la liberté religieuse. Parce qu'on se dépêche de supprimer le repos dominical et on lutte contre les congrégations enseignantes catholiques. En 1898, c'est l'affaire Dreyfus. L'antisémitisme a monté dans beaucoup de milieux catholiques de droite, ce qui entraîne un regain d'anticléricalisme à gauche. En 1901, c'est la fameuse loi sur les associations. Mais il y a un régime d'exception pour les congrégations religieuses. Leur autorisation doit être définie par une loi et ces congrégations peuvent être dissoutes par simple décret. En 1902 jusqu'en 1904, c'est le gouvernement d'Émile Combes qui fait empirer la situation. Les demandes d'autorisation des congrégations religieuses sont rejetées. Elles ont l'interdiction d'enseigner et finalement on les chasse de France. Évidemment, les relations diplomatiques avec le Saint-Siège sont rompues. Donc, le concordat signé par Bonaparte et le pape Pie VII devient caduc. Il est urgent de clarifier cette situation, ce qui est fait avec la loi 1905, séparation de l'Église et de l'État. Et pendant ce temps, au Pays Basque et à Iroulégui. En 1889, majoritairement, on n'a pas voté pour les Républicains. Et monsieur le préfet estime que c'est la faute du clergé. Alors, il supprime tranquillement le traitement de 18 prêtres basques. Puis, c'est la question du catéchisme en basque. En 1902, le maire d'Iroulégui, comme tous les autres maires, reçoit une note du sous-préfet. Il doit certifier que le catéchisme est fait en français puisque les curés reçoivent de l'argent de l'État, ils doivent faire le catéchisme dans la langue nationale. Mais nos curés font de la résistance. En 1902 et 1903, c'est le curé d'Iroulégui, Mokosain, qui est confronté à plusieurs plaintes de paroissiens devant le préfet. Première plainte. Le curé Mokosain aurait remplacé un membre de la fabrique, à savoir que la fabrique, c'est un conseil pastoral. Il aurait donc remplacé un membre de la fabrique sans avoir sa démission. Il s'ensuit des consultations entre le préfet, le sous-préfet, les vicaires capitulaires, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'évêque de Bayonne. Monseigneur Geoffrey est décédé, donc ce sont deux vicaires qui assurent son intérim. Préfet, sous-préfet, vicaire capitulaire s'écrivent, se réécrivent, et finalement, on décide de classer l'affaire pour éviter de faire de la publicité au curé, a conseillé le sous-préfet. Deuxième affaire, le curé Mokosain a augmenté le tarif des messes, car les paroissiens ne fournissaient plus les dons en nature dont nous avons parlé récemment. Nouveau balai entre le préfet, le sous-préfet, les vicaires capitulaires, et cette fois-ci, on y introduit l'instituteur d'Irulegui, Esteote, qui est certainement l'instigateur de la plainte. Le curé écrit au vicaire capitulaire pour expliquer la situation, se plaint que les dons en nature n'arrivent plus, qu'il a bien fallu qu'il demande de l'aide à la mairie, que la mairie n'a pas voulu la donner, et que donc, qu'est-ce qui lui restait ? Supprimer une des deux messes du dimanche, augmenter le prix des messes, peut-être ne plus aller chercher les morts à leur demeure. On menace le curé de lui supprimer l'aide municipale qui lui avait été accordée. Et l'affaire s'arrête là, du moins dans les documents que nous avons pu consulter. Arrive la loi de 1905, puis les inventaires des biens religieux en 1906. Le 5 mars 1906, c'est l'inventaire à Irulegui, en présence de l'instituteur Esteote, comme témoin. Les braves gendarmes de Baïgorry sont arrivés les premiers sous le porche de l'église, qui est désert. Il semble monter une garde d'honneur au roi du ciel et de la terre enfermé à l'intérieur du modeste édifice, écrit le curé dans un article qui relate les faits et que nous avons retrouvé dans les archives paroissiales. La porte de l'église est fermée, le curé refuse de l'ouvrir, le serrurier s'active, mais la serrure est résistante. Le serrurier n'arrive pas à ouvrir. Il faut donc attaquer la pierre au ciseau et au marteau. Puis on fait l'inventaire. Pendant que les fidèles récitent le chapelet et chantent l'Ave Maristella. Par la suite, le curé Mokosain va ouvrir une souscription pour réparer les dégâts de l'entrée et tout fidèle généreux recevra en souvenir un éclat de la pierre. En 1907 et 1908, après la mise sous séquestre des biens religieux, ces biens sont attribués à la mairie d'Irulegui. Alors elle reçoit une rente qui provient de la vente d'une maison qui appartenait à la paroisse. Elle reçoit une vigne, elle reçoit un petit lopin de terre et bien sûr elle reçoit le presbytère. Mais la mairie d'Irulegui, qui est quand même très tolérante, choisit de garder le curé dans son presbytère moyennant un loyer de 20 francs. La même année, le curé Mokosain, qui aura peut-être fait trop de vagues à Irulegui, est nommé à Mouguer. Il est remplacé par l'abbé Pierre Saint, celui qui va construire une nouvelle église Saint-Vincent à Irulegui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.
L'histoire méconnue du village d'Irulegui, raconté par Dami Vigier.